Unité 23. Texte 2. Le squelette dans le placard.
Pouvons-nous aller dans ce village plus tard? Si nous marchions cet après-midi dans les pas de Cézanne. Vous voyez ces clous estampillés d'un C? Il nous suffit simplement de les suivre et nous pourrons visiter la ville comme le père de tous les artistes le faisait et nous découvrirons les sites qui l'ont inspiré jusqu'à la montagne Sainte-Victoire. Qu'en dites-vous?
Cette idée me plaît. On est tous exténués. On a besoin de repos et de sérénité. Je ne crois pas qu'on rate quelque chose en consacrant une demi-journée à ressentir l'ambiance cézannienne du lieu.
Étienne et Stéphane étaient aussi heureux de se distraire un peu des soucis et des recherches. D'abord, les amis visitèrent l'atelier de Cézanne qui se trouvait sur la colline des Lauves et où le peintre avait travaillé tous les jours de 1902 jusqu'à sa mort en 1906. L'atelier n'abritait aucune œuvre de l'artiste, mais conservait les objets de son quotidien parmi lesquels il y avait des poteries, des faïences, des bouteilles, des vases, un sucrier, des fleurs en papier ou des étoffes, des fruits ainsi que le petit amour en plâtre. On pouvait aussi y retrouver son mobilier et son matériel de travail, chevalet, pinceau, échelle en bois, couleur. Au sommet de la colline s'étendait le merveilleux panorama où dominait la reine de ces paysages, la montagne Sainte-Victoire, 44 huiles et 43 aquarelles conservées dans les musées du monde et dans les collections particulières. Après, les jeunes gens allèrent au terrain des peintres et au musée Granet classé parmi les plus beaux de France. 10 huiles sur toile de Cézanne faisaient partie de ses collections. En fin d'après-midi, les quatre détectives se mirent à la recherche du village Pourrières. Situé au pied de la Sainte-Victoire et entouré de collines verdoyantes, la cité offrait aux amoureux de la nature la perspective de belles promenades et randonnées. Voilà pourquoi les amis décidèrent de faire semblant d'être des touristes cherchant un hébergement dans le village. Quand ils y arrivèrent, le soleil déclinait. Les rues étaient vides, il n'y avait personne dehors. La voiture roulait sur la route déserte entre les maisons provençales en pierre. Sur le toit plat d'une maison, ils virent un vieil homme. Une perceuse à la main, il essayait de rénover la toiture.
Arrêtons-nous ici. Je ne suis pas convaincu que ce vieux réussisse à réparer le toit seul. Étienne, que dirais-tu de lui donner un coup de main?
Excellente idée. J'adore bricoler.
La voiture freina devant les portes cochères et les amis descendirent. Ils saluèrent le vieil homme et proposèrent de l'aider.
Mes enfants, entrez. Vous tombez bien. Votre aide est bien à propos. J'ai attendu mes neveux cette semaine, mais leur travail les a empêchés de venir. Et le toit qui est sur le point de s'effondrer ne peut pas attendre. Appelez-moi oncle Charles, et c'est ma femme, Claudine. Pour vous, tante Claude.
Dans la cour vaste et propre, une vieille femme était assise sur une chaise en paille et cousait quelque chose à l'aide d'une aiguille, de fil et d'un dé, raccommodant probablement de vieux vêtements. Elle sourit aux jeunes gens et leur offrit de la limonade fraîche. S'étant rafraîchis un peu, les jeunes hommes prirent les outils, un pistolet à calfeutré pour appliquer des mastics d'étanchéité afin de prévenir les fuites, une perceuse et des vis spécifiques nécessaires pour renforcer la structure du toit. Ils montèrent l'échelle pour aller sur le toit et commencèrent les réparations sous la supervision de l'oncle Charles. Les filles restèrent en bas avec la tante Claude qui leur montra la maison, une machine à coudre et de jolis napperons, coussins et torchons qu'elle avait tricotés et brodés elle-même. Sachant bien broder, Camille regardait avec intérêt tous les ouvrages de la tante Claude et lui parlait des différentes techniques de broderie et de tricot. Pendant ce temps, Béatrice, qui n'était pas adepte de tricot, ni de couture, observait de vieilles photos accrochées au mur de la maison. Les photos étaient en noir et blanc, un peu abîmées ou jaunies, l'image floue. Pourtant, elle représentait un vrai trésor parce qu'on pouvait suivre toute l'histoire de la vie des habitants de la maison. Sur une des photos de groupe, B a reconnu le jeune père Bonnard près duquel se trouvait une belle petite fille aux yeux en amande.
Tante Claude, quelle belle photo vous avez! Chacune peut raconter son histoire et ses secrets. Qui est cette belle fille aux yeux en amande? Son visage me semble familier.
Tu parles d'Annie, la fille de Thomas? Oui, elle était la plus belle fille du village. Il est peu probable que tu la connaisses. Elle a disparu peu après cette histoire immonde avec son père. Il est possible qu'elle soit partie pour le Sénégal et qu'elle y soit morte, la pauvre.